Cinq maris, c'est beaucoup. Cinq maris, c'est beaucoup, d'autant que ça ne s'arrête pas là. Elle a eu cinq maris et celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari. Le texte n'emploie pas le verbe se marier, être marié. Cette femme, comme Jésus, emploie le verbe avoir. Avoir un mari, avoir un homme, comme on a aujourd'hui un copain, une relation, un compagnon, quelqu'un. Elle a faim. C'est une mangeuse d'hommes, aurait-on dit en d'autres temps. Et on comprend qu'elle vienne seule au puits. Les autres femmes, les femmes de son village, ne l'aiment pas. Elles craignent pour leur mari. Une de mes premières mariées qui est divorcée. Parfois, on me demande mes stats. Dans les couples que vous avez mariés, il y en a beaucoup qui ont divorcé. Je réponds parfois tristement qu'il y en a moins que ceux qui sont décédés. Parce que c'est une réalité. Eh bien, cette femme à laquelle je pense, ravissante, divorcée d'un homme déséquilibré, me disait qu'elle n'est pratiquement jamais invitée à dîner parce que les femmes ont peur pour leur mari. Il ne suffit pas d'avoir un mari, il faut le garder. Et cette femme de Samarie ne les gardait pas. Elle ne les gardait pas, elle ne pouvait pas les garder tant qu'elle ne savait pas ce qu'en réalité elle cherchait, ce dont elle avait vraiment besoin. Si tu savais le don de Dieu. Cette femme dit qu'elle n'a pas de mari parce qu'en réalité elle n'en a jamais assez. C'est caractéristique de l'addiction. L'addiction est une maladie du désir. Elle est, en termes modernes, addicte. Addicte à la relation affective, à la tendresse, à la sécurité. Une DASA, elle aurait sa place chez les DASA. Les DASA, ce sont les dépendants affectifs et sexuels anonymes. Anonymes ici dans l'Évangile parce qu'on ne connaît pas son nom, tandis que chez les DASA, comme chez les AA, alcooliques anonymes, les NA, narcotiques anonymes, mais on pourrait ajouter tous ceux qui sont dépendants, addicts aux portables, aux réseaux sociaux, aux séries télévisées, la pornographie sur Internet, les responsabilités ou le stress professionnel, ce qu'on appelle les work alcooliques, on pourrait faire toute une liste. Anonyme signifie là que la maladie dont on souffre, est vécue par d'autres personnes. D'autres personnes qu'on retrouve pour s'entraider, pour dépasser, pour sortir de la honte. L'addiction est une maladie du désir. C'est une maladie du lien, affectif, social, où la personne qui souffre de ne pas obtenir ce dont elle a besoin, ça peut être la sécurité, la reconnaissance, le soutien, décide d'aller elle-même le chercher, le prendre elle-même, sans se douter, sans imaginer que la maîtrise va s'inverser. Au départ, c'est la personne qui décide de prendre ce dont elle a besoin, pour échapper à la solitude, surmonter l'anxiété, se supporter elle-même, jusqu'à ce que la solution devienne le problème. Jusqu'à ce que la personne perde sa liberté, sa dignité, et c'est aussi inavouable qu'insupportable. Être esclave de son désir. Pour ne pas porter sur la personne addicte un regard de jugement, il ne suffit pas de savoir que l'addiction est une maladie. Il faut d'abord se rappeler que le problème dont elle souffre, c'était au départ une solution. Avant d'être un problème, l'alcool est une solution. Une solution qui permet de se désinhiber, un désinhibiteur pour des anxieux, un antalgique pour des douloureux, un dopant pour des personnes surmenées.
Avec en plus une bonne image, puisque l'alcool fait partie de notre culture, qu'il accompagne les moments festifs, qu'il est
le fruit de la vigne et du travail des hommes.
L'alcool occupe une place particulière dans toutes les addictions parce que c'est la seule maladie
dont on peut mourir à l'arrêt. Le diable est un tueur.
Qui aidera la personne addicte ? La personne alcoolique ?
Qui lui tendra la main ? Qui lui rendra la liberté ? La remettra sur un chemin de libération. Le silence tue davantage que les produits,
m'expliquait un médecin alcoologue à qui je parlais de la difficulté de dire quelque chose,
la difficulté d'aller chercher la personne dans son addiction.
Elle me disait, vous la considérez comme libre alors qu'elle ne l'est plus.
L'addiction, c'est une maladie, mais c'est une perte de liberté. Et il faut remettre à la personne en état de choisir. De porter sur elle-même un regard nouveau qui ne soit plus de honte, voire de dégoût. La personne addict vient chercher un regard. Est-ce que je vaux encore quelque chose ? Est-ce que je suis autre chose que mon addiction ? Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, dit le Seigneur. Ce qui soigne, ce qui libère, ce qui sauve une personne dépendante, c'est un regard d'amour. C'est le regard bienveillant d'une personne qui ne me juge pas, qui m'accueille tel que je suis.
Et voyez cette femme de l'Évangile, lorsqu'elle retourne à la ville,
elle a une phrase bouleversante.
Laissant là sa cruche, elle revient à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. »
Elle a compris que le Christ faisait la part entre qui elle est et ses actes, les actes de sa vie passée.
« Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, uniquement parce que Jésus lui a dit qu'elle a eu 5 maris et que celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari. Tout ce que j'ai fait,
faut-il qu'elle soit enfermée, prisonnière, obsédée par ses échecs, pour qu'il puisse constituer à ses propres yeux toute sa vie.
Ce n'est pas parce que vous direz quelque chose que vous aurez une parole de mise en garde, d'alerte, d'encouragement à une personne addicte qu'elle va changer, qu'elle va accepter de se faire aider. Souvent, d'ailleurs, vous le savez, elle réagira mal.
Mais cette parole que vous direz sera, pour prendre une image, comme le jouet qu'on met dans un coffre à jouets. Il rejoint les autres, mais un jour, ce jouet, c'est le jouet de trop qui empêche le coffre de fermer. Dans ce coffre, il y a une personne à qui vous pouvez tendre et prendre la main, créer un lien humain.
Que faisons-nous, nous prêtres, quand, en confession, une personne vient avouer ou laisse entendre une addiction ? En confession, on dépose ses souffrances autant que ses péchés. Et parfois, il n'y a que des souffrances.
Parce que le sacrement du pardon, de la réconciliation, c'est une force de consolation.
Eh bien, nous demandons à la personne
si elle en a déjà parlé à quelqu'un ou à qui elle pourrait en parler.
Et parfois, c'est à nous, prêtres. Plutôt, c'est nous, prêtres, que la personne a choisi,
justement pour que ça reste secret. Et aussi parce qu'elle a confiance.
Et à défaut d'une meilleure solution, nous lui proposons alors de revenir nous voir, en dehors de la confession, si elle le souhaite.
Parce que le Seigneur nous a envoyés pour être des ministres de sa grâce, c'est-à-dire pour restaurer un lien d'amour avec lui, avec son Père, entre nous, avec nos frères.
Mais l'idéal, L'idéal, c'est que ce soit vous, chacun de vous, chacun d'entre nous, qui soit capable de tendre la main, qu'elle puisse voir en vous la personne qui lui fait confiance et à qui elle peut faire confiance pour retisser ce lien avec la vie, avec les autres, pour l'aider à sortir de sa prison. Dans la confession, on dépose ses souffrances autant que ses péchés. Le Christ est venu pour nous rendre la liberté. Recevez le corps du Christ, c'est d'abord accepter son regard de bonté.